Commentaire sur 2 Corinthiens, partie 2, document d'étude numéro F0472. Commentaire sur les chapitres 5 à 9. Introduction. Paul poursuit au chapitre 5 et continue sa discussion sur ses souffrances et son danger constant. Il continue à développer le texte en abordant la question de la résurrection et du changement éternel, de la transformation du corps en un corps spirituel, préparé pour les élus par Dieu dans les cieux, pour la première résurrection, numéro 143a, au retour de Christ. Objet des chapitres. Chapitre 5, Paul dit que nous savons que si l'attente terrestre dans laquelle nous vivons est détruite, nous avons un édifice venant de Dieu, une demeure qui n'a pas été faite de main d'homme et qui est éternelle dans les cieux. Verset 1. En effet, dans cette tente-ci, présentement, nous gémissons et nous désirons ardemment revêtir notre domicile céleste, afin qu'en le revêtant, nous ne soyons pas trouvés nus. Voir les versets 2 à 3. Paul dit, car tandis que nous sommes encore dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné l'Esprit comme garantie. Voir les versets 4 à 5. En cela, nous ne devons pas confondre cet enseignement avec les doctrines gnostiques du ciel et de l'enfer. Personne ne va au ciel, mais nous attendons le retour du Messie du ciel, sur lequel nous recevrons notre transformation après la résurrection. Et alors, nous serons tous changés en des êtres spirituels, et emmenés à Jérusalem pour régner et gouverner la terre pour le système millénaire, ainsi que pour la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc. Voir le document numéro 143b. L'Esprit Saint est une garantie ou un acompte pour la croissance, ainsi que la puissance finale des élus lors de l'ex-anastasine ou première résurrection. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10, nous voyons que Paul dit qu'ils ont toujours bon courage et sont pleins de confiance, tandis que dans le corps, ils demeurent loin du Seigneur, car ils marchent par la foi et non par la vue. Ils préfèrent quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Que ce soit dans ce corps ou qu'ils le quittent, leur but est donc de lui être agréable. Paul déclare que nous devons tous comparaître devant le trône de jugement de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal selon ce qu'il a fait dans son corps. La réalité du jugement est que les élus sont présentement jugés et que s'ils échouent, ils ne seront pas dans la première résurrection. Tous ceux qui ont échoué aux critères de la première résurrection seront consignés à la deuxième résurrection. Le jugement de la première résurrection commence à partir du baptême, ainsi que de la réception de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains en tant qu'adulte repentant. Les autres commentaires de Christ se rapportent à l'attribution des tâches et de l'autorité pour le système millénaire. C'est alors que les élus découvriront leurs faiblesses et comment ils se sont comportés au sein de la classe. Ce que nous sommes est connu de Dieu, et espérons-le de notre conscience. Voir le verset 11. Paul ne recherche pas l'éloge, mais a donné aux élus une raison d'être fiers d'eux, afin qu'ils puissent répondre à ceux qui s'estiment eux-mêmes mieux fondés sur leur position et acception des personnes, et non sur le cœur de la personne. Voir le verset 12. La diffamation et l'acception des personnes, voir le document numéro 221, sont le mal le plus insidieux dans les églises de Dieu. Paul dit, à partir du verset 13 et suivant, que s'ils sont hors de leur sens, c'est pour Dieu, et s'ils sont dans leur bon sens, c'est pour l'Église. Car l'amour de Christ les contrôle, parce qu'ils sont convaincus qu'un seul est mort pour tous, car dans cet acte, Christ est mort pour tous. Ainsi, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Christ, qui pour eux est mort et est ressuscité. À partir des versets 16 et suivant, Paul dit que désormais, ils ne considèrent plus personne sur le plan humain. Même si autrefois, ils considéraient Christ sur le plan humain, ils ne le font plus. Paul transfère alors maintenant la vision de l'homme à celle de théoi, potentiel, ou d'un fils de Dieu, en tant que co-héritier de Christ. S'ils sont avec Christ, ils sont une nouvelle création, entre parenthèses, par leur baptême et la réception de l'Esprit-Saint. Christ nous a donné un nouveau ministère de la réconciliation qui nous réconcilie avec lui-même. En Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même, sans tenir compte des fautes qui ont été commises à leur égard. Dieu nous a confié le message de la réconciliation. À partir des versets 20 et suivants, Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ, Dieu faisant son appel à travers nous. Ainsi, nous implorons tous, au nom de Christ, d'être réconciliés avec Dieu. Pour nous, Dieu a fait devenir péché celui qui n'a point connu le péché, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Chapitre 6. Paul parle ensuite du temps favorable, entre parenthèses de grâce, d'Ésaïe 49, verset 8 et suivant, exhortant tous à répondre fidèlement à la grâce de Dieu par Christ, maintenant, avant le retour du Seigneur. Car c'est le jour de salut qui a été étendu aux élus de Dieu à travers Christ, comme une alliance avec le peuple, afin d'établir la terre et de répartir les héritages désolés, en libérant les prisonniers et en ramenant ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Paul dit alors que c'est maintenant le temps favorable et que c'est maintenant le jour de salut. C'est ainsi que Christ a déclaré le commencement à l'année du Jubilé, aux jours d'expiation, en tant que l'année de grâce du Seigneur en l'an 27 de notre ère. Lorsque Christ a lu le rouleau d'Ésaïe dans la synagogue, voir Luc 4, verset 19. Paul écrivait en hiver de l'an 57 ou au printemps de l'an 58 de notre ère, jusqu'à la Pâque, étant la dernière partie de la 29e année du 81e Jubilé, qui est la première année du 5e cycle du calendrier du Temple, qui a suivi l'année de sabbat de la libération. Voir le document numéro 156. Comparez aussi le document « La lecture de la loi » avec Esdras et Néhémie, numéro 250. À partir du verset 3, Paul dit qu'il ne met aucun obstacle sur le chemin de qui que ce soit, de sorte qu'aucune faute ne peut être trouvée dans leur ministère. Mais en tant que serviteurs de Dieu, ils se recommandent eux-mêmes en toute manière. Par une grande endurance dans les afflictions, les épreuves, les calamités, les coups, les emprisonnements, les tumultes, les labeurs, les veilles, la faim, par la pureté, la connaissance, la tolérance, la patience, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour sincère et authentique, la parole véridique et la puissance de Dieu, avec les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et le déshonneur, dans la mauvaise réputation et la bonne réputation. Paul dit qu'ils sont traités comme des imposteurs, et pourtant ils sont vrais, comme inconnus et pourtant bien connus, comme mourants et voici que nous vivons, comme punis et pourtant pas tués, comme tristes et pourtant toujours joyeux, comme pauvres et pourtant ils en enrichissent plusieurs, comme n'ayant rien et pourtant ils possèdent tout. À partir du verset 11, Paul dit aussi « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Il dit qu'ils ne sont pas à l'étroit au-dedans d'eux, mais que leurs entrailles se sont rétrécies. En rendant l'appareil, je parle comme à des enfants, élargissez aussi vos cœurs. » Paul lance ensuite un avertissement pour le risque d'être malmené par des infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle association ou communion entre la lumière et les ténèbres? Verset 14. Quel accord Christ a-t-il avec Bélial? Ou qu'est-ce qu'un croyant a en commun avec un non-croyant? Verset 15. Quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Paul développe ensuite le texte à partir d'une série de textes cités de façon très libre, entre parenthèses, toujours à partir de la Septante. Lévitique 26, verset 12. Ézéchiel 37, verset 27, Ésaïe 52, verset 11, 2 Samuel 7, verset 14. Le but de ce texte est de montrer que les élus doivent être les fils et les filles de Dieu, en tant que des Elohim, étant mis à part et saints. Chapitre 7. À partir du chapitre 7, Paul continue, en tenant compte des promesses de la foi décrites précédemment, d'exhorter les Corinthiens à se purifier de toute souillure du corps et de l'esprit, et à rendre la sainteté parfaite dans la crainte de Dieu. Dans les versets 2 à 3, Paul exhorte alors à leur ouvrir leur cœur, car ils n'ont fait du tort et corrompu, et n'ont profité de personne. Paul déclare qu'il ne dit pas cela pour les condamner, car Paul a dit auparavant qu'ils sont dans leur cœur, pour mourir ensemble et vivre ensemble. Paul dit ensuite qu'il a une grande confiance et une grande fierté en eux. Paul est rempli de réconfort. Avec toute leur souffrance, il est ravi. À partir du verset 5, Paul dit, « Car même lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, nos corps n'avaient pas de repos, mais ils étaient affligés à chaque instant par les luttes au dehors, craintes au dedans. » Paul dit ensuite, versets 6 à 7, que Dieu qui console les déprimés nous a réconfortés par la venue de Tite, qui, à son arrivée, a parlé à Paul de la consolation qu'il avait reçue des Corinthiens et lui a fait part du deuil et du zèle des Corinthiens pour Paul, et que cette nouvelle a réconforté Paul. Paul dit au verset 8, « Car même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. » Et il ajoute, « Bien que je l'ai regretté, entre parenthèses, car il a vu que la lettre les a attristés, bien que momentanément. » Il dit ensuite qu'il s'est réjoui, non pas parce qu'ils étaient affligés, mais parce qu'ils étaient poussés à se repentir. Donc c'était un chagrin pieux, et aucun dommage n'a été causé de la part de Paul. Le chagrin divin produit une repentance à salut et n'apporte aucun regret, mais le chagrin terrestre conduit à la mort, voir le verset 9 à 10. Paul dit ensuite, « Et voici ce chagrin pieux divin, quel empressement n'a-t-il pas produit en vous ? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quel châtiment ?» Verset 11. « Ainsi, si donc je vous ai écrit, ce n'est pas à cause de celui qui a fait le mal, ni à cause de celui qui a souffert le mal. » Mais c'est pour que votre zèle pour nous soit révélé aux Corinthiens devant Dieu. Verset 12. Au verset 13, Paul déclare, « C'est pourquoi nous sommes consolés. Et outre notre propre consolation, nous nous réjouissons encore plus de la joie de Tite, car son esprit a été mis au repos par les Corinthiens. » Paul nous encourage encore davantage en déclarant, « Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. » Mais de même que tout ce que nous vous avons dit était vrai, de même ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est révélé vrai. Verset 14. Paul est confronté à une situation difficile à Corinthe avec les factions et les problèmes sociaux de Corinthe et ses effets sur l'Église. C'est pourquoi les lettres contiennent davantage d'exhortations et d'encouragements, ce qui est normal pour lui. Il arrondit et complète ensuite le texte des commentaires dans les versets 15 et 16 par l'encouragement de la pensée de Tite lorsqu'il s'est rendu auprès d'eux sur le chemin de Paul. Tite se souvient de leur obéissance et de la crainte et du tremblement avec lesquels ils l'ont reçu. Paul dit alors qu'il se réjouit parce qu'il a une confiance parfaite en eux. Chapitre 8 à 9. Ces deux chapitres sont considérés par certains chercheurs érudits comme représentant une autre lettre ou une partie de celle-ci, comme nous l'avons mentionné dans les introductions. La section est souvent considérée comme distincte des chapitres 10 à 13 que nous voyons dans la partie 3. Chapitre 8. Le texte fait référence à l'offrande pour l'aide en faveur de l'Église de Jérusalem. Galates 2, verset 1 à 10, 1 Corinthiens 16, verset 1 à 4, Romains 15, verset 25 à 27. Paul commence par un commentaire sur la générosité des frères en Macédoine et les preuves sévères que représente leur extrême pauvreté, qui a également entraîné une grande libéralité de leur part, voir les versets 1 à 2. Car Paul témoigne qu'ils ont donné selon et au-delà de leurs moyens, de leur plein gré, suppliant Paul et l'équipe de participer à l'assistance destinée aux saints, voir les versets 3 à 5. Cela semble se rapporter à l'offrande des frères établis à Corinthe, afin que les fonds puissent être amenés à Jérusalem pour le soutien de l'Église persécutée là-bas. Titus était évidemment responsable de cette collecte. Voir le verset 6. Nous voyons donc aussi le besoin des autres églises, telles que celle en Macédoine, qui était très démunie. Au verset 7, Paul les exhorte à exceller dans ce travail de collecte pour les saints de Jérusalem, car ils excellent dans d'autres aspects. Au verset 8, Paul dit que ce n'était pas un ordre, mais que Paul devait prouver par le sérieux des autres que leur amour est aussi sincère et authentique. Paul dit qu'ils connaissent la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui, bien que riche, est devenu pauvre à cause d'eux, afin que par sa pauvreté, ils deviennent riches, voir le verset 9. Ceci fait référence à la richesse de la préexistence de Christ, voir le document numéro 243. Au verset 10 et suivant, Paul se réfère ensuite à la collecte qui a été commencée un an auparavant, entre parenthèses lors de l'année de sabbat, pour les saints persécutés à Jérusalem, 1 Corinthiens chapitre 16. Il se peut qu'elle ait été retardée par le différend causé par la lettre problématique. Ce commentaire a été fait ici pour que leur volonté, leur promptitude de la désirer, s'accompagne de leur volonté de la compléter à partir de ce qu'ils ont. Car si la volonté est là, elle est acceptable par rapport à ce qu'une personne a, et non par rapport à ce qu'elle n'a pas. Par ce commentaire, Paul ne voulait pas dire que les autres devraient être allégés et que Corinthe emporterait le fardeau, mais que, par souci d'égalité, l'abondance de Corinthe, à l'heure actuelle, devrait répondre à leurs besoins, de sorte que l'abondance des autres pourrait répondre aux besoins de Corinthe à un autre moment, afin qu'il y ait égalité. Il fait ensuite des références au désert, ainsi qu'à l'équité lors de la collecte de la manne, voir Exode 16, verset 18. À partir des versets 16 et suivants, Paul rend ensuite grâce à Dieu, qui, dit-il, a mis dans le cœur de Tite le même soin sérieux et sincère pour les frères de Corinthe, qui, dit-il, a accepté leur appel, mais s'en va à Corinthe de son propre chef, voir les versets 16 à 17. Le frère envoyé avec Tite, au verset 18, comparé aussi le verset 22, reste non identifié. Au verset 20, Paul indique qu'il tient à ce que personne ne les blâme pour ce don de libéralité qu'ils administrent, car ils visent ce qui est honorable, non seulement aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Le frère, au verset 22, est inconnu, mais on dit qu'il est souvent mis à l'épreuve, et que sa confiance envers Corinthe est grande. Paul identifie Tite comme son compagnon d'œuvre, et les frères sont déclarés comme des messagers des églises, la gloire de Christ. Il exhorte les frères à donner la preuve de leur amour devant les églises, ainsi que de montrer à ces hommes, au sujet de Paul, de se glorifier de Corinthe. Chapitre 9. Au chapitre 9, Paul poursuit les commentaires sur la collecte en disant qu'il est superflu de leur écrire au sujet de l'offrande des saints. Paul dit qu'il se vante des Achaïens aux Macédoniens, en disant qu'ils sont prêts depuis l'année dernière, et que le zèle des Corinthiens a éveillé la plupart d'entre eux. Voir les versets 1 à 2. Paul dit ensuite qu'il envoie les frères de manière à ce que ses éloges à leur égard ne soient pas vains dans ce cas, afin qu'ils soient prêts comme il a dit. Paul les avertit d'être prêts, afin que si des Macédoniens viennent avec lui à Corinthe, et qu'ils ne sont pas prêts, comme Paul l'a dit qu'ils seraient prêts, ils seraient tous humiliés. Voir les versets 3 à 4. Paul envoie donc les frères devant lui, et pour arranger le don qu'ils avaient promis à l'avance. Voir le verset 5. Paul dit alors que celui qui sème avec parcimonie récoltera avec parcimonie, et celui qui sème avec abondance récoltera avec abondance. Chacun doit faire ce qu'il a décidé, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voir les versets 6 à 7. À partir du verset 8, Paul dit que Dieu est capable de leur donner toute bénédiction en abondance, afin que les frères aient assez de tout, et qu'ils puissent pourvoir en abondance à toute bonne œuvre. À partir du verset 9, Paul cite ensuite le psaume 112, verset 9. Il dit ensuite, au verset 10, que « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture fournira et multipliera vos ressources et augmentera la récolte de votre justice. » Comparé Isaïe 55, verset 10. Paul dit qu'ils seront enrichis de toutes les manières possibles par une grande générosité qui, à travers nous, produira une action de grâce à Dieu, car le rendu de ce service non seulement répond à la demande des saints, mais déborde aussi en action de grâce à Dieu. Voir les versets 11 à 12. Paul dit que, sous l'épreuve de ce service, ils glorifieront Dieu par leur obéissance, en reconnaissant l'évangile de Christ, et par la générosité de leur contribution pour eux et pour tous les autres, alors qu'ils s'élanguissent de vous et prient pour vous à cause de la grâce supérieure de Dieu en vous. Merci à Dieu pour son don inexprimable. Ceci termine les deux chapitres de l'addendum à la collecte. Nous allons maintenant lire 2 Corinthiens, les chapitres 5 à 9, dans la version Louis II. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car Dieu dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'ai été secouru. » Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel zèle? Quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ceux dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection, au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous. Chapitre 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je vous donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive, touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle, de votre part, a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Si après, dans ce document, les notes de Bullinger sur 2 Corinthiens chapitre 5 à 9 pour la Bible version King James. Ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture de l'étude de commentaires sur 2 Corinthiens, partie 2, F047-2.